Chapitre 27. Issue. Nous nous assîmes au piano, ainsi que Lucille l'avait proposé. Elle voulait me faire jouer la première, mais comme je lui enseignais à ce moment une sonate de Mozart, je voulus continuer la leçon. Jamais de ma vie je n'ai joué ou ne jouerai aussi mal que ce jour-là. Le calme divin et le fini qui rendent, selon moi, la musique de Mozart supérieure à tout ce qu'on a composé, ne peuvent être rendus fidèlement qu'en y appliquant toutes ses facultés. Dans mon anxiété, je pouvais tout au plus profaner ses admirables mélodies, je ne pouvais les interpréter comme elles le méritaient. Je m'excusai donc auprès de Lucille, qui me remplaça au piano. Une demi-heure se passa ainsi, sans nouvelles des sables. Une demi-heure, ce n'est pas long, mais si on la calcule par l'anxiété qu'on éprouve quand vos intérêts sont en jeu, une demi-heure semble l'éternité. À chaque minute qui se passait et laissait Lucille dans l'erreur, ma conscience me faisait un nouveau reproche. Plus nous irions, plus il serait difficile de lui avouer la vérité. Je me sentais agité et Lucille, de son côté, se plaignait de la fatigue. Après toutes les émotions de la journée, une réaction inévitable s'était emparée d'elle. Je lui conseillai d'aller se reposer dans sa chambre. Elle suivit mon conseil et s'en alla. J'avoue que dans l'état d'esprit où je me trouvais, j'éprouvais un soulagement inexprimable à rester seule. Après m'être promenée pendant quelque temps de long en large dans le boudoir, cherchant inutilement le moyen de vaincre les difficultés qui nous entouraient, je résolus de ne pas attendre les nouvelles, mais d'aller les chercher. Les deux frères étaient encore au sable. Je me déterminai à y aller. Je jetai un coup d'œil discret dans la chambre de Lucille. Elle était endormie. Après un mot pour la recommander à Zilla, je me glissai dehors. En passant sur le gazon, j'entendis la porte du jardin s'ouvrir, et un instant après, celui que je désirais tant voir, Nugent, se présenta à moi. Il avait emprunté la clé d'Oscar et était venu pour me dire ce qui s'était passé entre son frère et lui. « Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu de la chance, » dit-il. « Je me demandais comment je pourrais bien m'y prendre pour vous entretenir en secret, et vous voilà devant moi et toute seule. « Où est Lucille ? Sommes-nous sûrs de ne pas être dérangés dans le jardin ?» Je rassurai Nugent. Il avait l'air bien pâle et bien fatigué. Je vis, avant même qu'il eût ouvert la bouche, que sa patience avait été mise à l'épreuve et qu'il avait souffert mentalement depuis que je l'avais quitté. Il y avait, au bout du jardin, un kiosque d'où la vue s'étendait sur les montagnes. Ce fut là que nous nous installâmes et, avec ma vivacité ordinaire, je commençai par cette formidable question « Qui se chargera de désabuser Lucille ?»« Personne. » Cette réponse me confondit tout d'abord. Je regardai Nugent sans mot dire et d'un air étonné. Il n'y a rien là d'étonnant. Deux mots me suffiront pour vous expliquer sur quoi je base cette assertion. J'ai parlé sérieusement à Oscar depuis que je vous ai vu. Un proverbe anglais dit que les femmes n'aiment pas à écouter patiemment. J'en reconnais la vérité car j'interrompis Nugent à l'instant même. « Je pense qu'Oscar vous aura expliqué comment l'erreur a été commise, lui dis-je. Non, il ne peut s'imaginer comment cela est arrivé. Il avoue que, lorsqu'il se vit en tête-à-tête avec Lucille, son sang-froid l'abandonna complètement et qu'il se troubla au point de ne pas savoir ce qu'il disait. Il perdit la tête et elle perdit patience. Vous imaginez-vous le trouble fébrile d'Oscar en face de l'irritabilité nerveuse de Lucille ? Le résultat s'explique. De ce choc, il ne pouvait sortir qu'erreur et malentendu. J'y ai réfléchi après votre départ et j'ai vu qu'il n'y avait qu'un parti à prendre, celui d'accepter patiemment la situation qui nous était faite et de nous arranger pour le mieux. J'ai réglé la difficulté, selon mon habitude, du reste, en tranchant le nœud gordien. J'ai demandé à Oscar s'il éprouvait quelque consolation à ne pas détromper Lucille avant le mariage. « Vous le connaissez si bien que je crois inutile de vous dire ce qu'il m'a répondu. »« Très bien, lui dis-je, sèche tes larmes et calme-toi. J'ai débuté dans le rôle de Barbe Bleue, eh bien, je serai encore Barbe Bleue jusqu'à nouvel ordre. » Je ne vous décrirai pas sa reconnaissance et avec quel empressement il a accepté ma proposition, la seule qui, selon moi, peut nous tirer d'affaire. Eh bien, répondit John Huggins, permettez-moi de vous dire que votre moyen est faux et indigne. Je proteste contre la manière cruelle dont vous profitez de la cécité de Lucille et je refuse de me mêler de cette affaire. Huggins se contenta d'allumer un cigare. Comme il vous plaira, dit-il. Vous avez cependant vu dans quel état pitoyable Lucille s'est mise en voulant m'adresser la parole. Vous avez vu comment elle a fini par succomber à l'horreur que je lui inspire. Eh bien, imaginez-vous qu'elle ressente pour Oscar cette horreur, compliquée dans ce cas d'indignation et de mépris, exposée là au danger de réveiller les sentiments que je viens d'énumérer avant d'avoir acquis l'influence d'un mari, si vous l'osez. Moi, qui aime tant le pauvre garçon, je n'ose le faire. Me permettez-vous de fumer ? Je lui fis signe que oui. Je sentis qu'il était nécessaire de questionner un peu plus cet homme insondable pour tâcher de le comprendre. Il n'était pas difficile d'expliquer sa promptitude à se sacrifier pour assurer la tranquillité d'Oscar. Il ne faisait rien à demi et il attaquait de face des difficultés qui auraient donné à réfléchir à tout autre que lui. Le zèle qu'il avait déployé pour sauver la vie d'Oscar lors du procès pourrait l'animer encore. Ma perplexité n'était pas produite par la conduite qu'il avait adoptée, mais par les expressions dont il se servait pour se justifier et par l'attitude qu'il prenait en me l'expliquant. Le jeune homme accompli était devenu aussi peu gracieux que possible. Il attendit ce que j'allais lui dire avec une expression d'hostilité prononcée que ne pouvaient expliquer les circonstances et qui jurait complètement avec sa conduite jusqu'alors. Il y avait quelque mobile secret, un motif intime qu'il cachait aussi bien à son frère qu'à moi. Cela était aussi clair que l'ombre et la lumière que je voyais dans le paysage. Mais quant à deviner la nature de ce sentiment et le motif qu'il me cachait, ma sagacité me faisait complètement défaut. Pas le moindre soupçon de son terrible secret ne m'avait traversé l'esprit. J'étais là dans une ignorance complète et témoin inconscient de la lutte finale de ce malheureux jeune homme entre son devoir envers le frère qu'il aimait et la passion dévorante qui le consumait. Tant que Lucille se l'imaginerait défigurée, on l'excuserait s'il ne se présentait pas devant elle, en se disant que c'était par pure considération pour la tranquillité de la jeune fille. C'était dans cette séparation qu'il fondait sa dernière espérance de mettre entre elle et lui une barrière insurmontable. Il avait déjà essayé inutilement d'un autre moyen en voulant hâter le mariage qu'il aurait rendu Lucille sacrée comme épouse de son frère. N'ayant pas réussi, il ne lui restait plus pour demeurer dans le sentier du devoir qu'à éviter Lucille jusqu'à ce qu'elle fût la femme d'Oscar. Il avait accepté la situation que lui avait faite celui-ci comme l'unique moyen de gagner ce but sans exciter le soupçon, et qu'avait-il rencontré de ma part pour le récompenser de ce sacrifice? Une protestation ignorante et une opposition stupide. Je connais à présent le motif pur et généreux qui l'animait. Voilà l'explication de cette obstination et de cet air hostile qui m'intriguait et me blessait. Je ne le sais que grâce à ce qui arriva par la suite. « Eh bien, dit-il enfin, sommes-nous amis ou ennemis ?» Je renonçai à le comprendre et je lui fis une réponse aussi catégorique que la question qu'il me posait. « Je ne nie pas tout ce qu'il y aura de terrible à désabuser Lucille, lui répondis-je, mais malgré tout, je ne veux prêter la main en aucune façon à l'illusion cruelle dont elle est victime. » Huggins me menaça du doigt. « Réfléchissez un instant, Madame Pratolungo. Le mal que vous pouvez causer dans les circonstances actuelles peut être irréparable. Je ne vous demanderai pas d'abandonner votre résolution, je désire seulement que vous attendiez un peu. Nous avons encore bien du temps avant le mariage. Il peut survenir quelque événement qui vous évitera la peine de dire la vérité à Lucille. Qu'est-ce qui peut arriver ? Lucille pourra peut-être s'en apercevoir comme nous, c'est-à-dire de ses propres yeux. Quoi ? Vous n'avez pas encore abandonné votre fol espoir ? Je ne l'abandonnerai que lorsque le médecin allemand l'aura jugé irréalisable. Pas avant. En avez-vous touché un mot à Oscar ? Non, et je ne veux en parler qu'à vous seul, jusqu'à ce que le médecin dont je parle ait débarqué sain et sauf en Angleterre. L'attendez-vous avant le mariage ? Certainement, il serait même revenu avec moi s'il n'avait été retenu à New York par les soins qu'il avait encore à donner à un de ses clients. Mais aucun autre malade ne pourra le retenir en Amérique où ses succès extraordinaires l'ont enrichi. Il a nourri toute sa vie le dessein de visiter l'Angleterre. Il a maintenant le moyen de satisfaire son désir. Il est possible qu'il arrive à Liverpool par le prochain steamer. Alors, vous l'amènerez à Dymchurch ? Oui, à moins que Lucille ne s'y oppose. Et si Oscar s'y opposait ? Lucille s'est résignée à rester aveugle toute sa vie. Si vous troublez cette résignation sans heureux résultat, vous la rendrez malheureuse pour le reste de ses jours. Si j'étais votre frère, je refuserais de lui laisser courir un pareil danger. Mon frère a un double intérêt à courir ce risque. Je vous répète que l'opération ne se bornera pas à effectuer une guérison physique en lui rendant la vue. Avec ce sens nouveau, son moral changera. Oscar a tout à craindre de l'état morbide créé chez elle par sa cécité. Mais que ses yeux viennent à corriger son imagination, qu'elle le voit comme nous le voyons et qu'elle s'habitue à lui comme nous nous y sommes habitués, et Oscar n'aura plus rien à craindre pour l'avenir. Voulez-vous me promettre de laisser les choses où elles en sont jusqu'à ce que le médecin allemand arrive avant le jour fixé pour le mariage ? Influencé malgré moi par la coïncidence remarquable qui existait entre ce que Nugent venait de dire de Lucille et ce que celle-ci m'avait dit sur elle-même dans la matinée, je consentis à ce que me demandait Nugent. Il était impossible de nier que ces suppositions, toutes extravagantes qu'elles parussent, se trouvaient confirmées par l'opinion émise par Lucille sur sa propre position. Ayant écarté momentanément la question sur laquelle nous étions divisés, je détournai la conversation pour aborder le sujet embarrassant des relations entre Lucille et Nugent. Après l'effet fâcheux que vous avez produit sur elle ce matin, comment ferez-vous pour la revoir ? Lui demandai-je. Nugent, se radoucissant, quitta le ton assez rude qu'il avait pris en me parlant. « Si j'avais pu agir à ma guise, me répondit-il, Lucille n'aurait plus, à l'heure qu'il est, aucune crainte de me revoir. Elle aurait déjà appris, par vous et par Oscar, que mes affaires me forçaient à quitter Dymchurch. Votre frère s'oppose donc à votre départ ? Il ne veut même pas en entendre parler. J'ai fait tout mon possible pour le décider à cette séparation. J'ai promis de revenir assister à la cérémonie nuptiale. Peine inutile. En me laissant seul ici, réfléchir au sacrifice que je t'ai imposé et au mal que j'ai causé, m'a-t-il répondu, mon cœur se briserait. Tu ne saurais croire, mon cher Nugent, quel courage ta présence m'inspire et quel vide tu ferais dans mon existence en me quittant. Quand Oscar me parle ainsi, je cède et me montre aussi faible que lui. Je lui ai donc cédé, malgré ma volonté ferme et arrêtée, mais mieux vaudrait 100 fois que je fusse bien loin d'ici, oui, bien loin. Il prononça ces dernières paroles d'un ton qui me fit tressaillir, car je reconnus l'accent du désespoir. Je ne voyais pas, comme je le vois à présent, que j'assistais au dernier effort de sa conscience. Pauvre innocente Lucille! Coupable et malheureux Nugent! Alors, repris-je au bout d'un instant, que comptez-vous faire, puisque vous restez à Dymchurch? Je veux faire tout mon possible pour éviter à Lucille la souffrance que je lui ai déjà causée bien innocemment. Aujourd'hui, je vois bien qu'elle ne peut maîtriser la version que lui cause ma présence. J'éviterai donc de me trouver sur son chemin pour qu'elle ne s'aperçoive pas de ma détermination. Mes visites au presbytère deviendront de plus en plus rares et je resterai au sable quand ils seront mariés. Il s'arrêta un instant comme si les paroles l'étouffaient et il se mit à rallumer lentement son cigare. « Quand ils seront mariés, » répétai-je. Oscar ne trouvant plus ma présence indispensable à son bonheur, je quitterai Dymchurch. « Quel prétexte donnerez-vous ? » « Je donnerai la vraie raison qui m'empêche de rester ici. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne puis trouver à Dymchurch d'atelier assez grand pour moi. Et même, en admettant que je puisse en trouver un, je sens bien qu'en restant ici, je ne ferai rien de bon. Mon esprit s'alourdit, mon cerveau s'endort dans cet endroit perdu. Oscar peut couler en compagnie de sa femme une existence calme et heureuse. Quant à moi, c'est Paris ou Londres qu'il me faut pour le développement de mon talent. Il soupira en disant ces paroles et regarda d'un air préoccupé le paysage qui s'étendait devant le kiosque. « Votre tristesse me surprend, lui dis-je, surtout quand je me rappelle que, le soir où vous avez interrompu M. Finch dans la lecture d'Hamlet, vous sembliez posséder un fond de gaieté inépuisable. » Nugent jeta son cigare et poussa un rire amer. « Ah, voyez-vous, me répondit-il, c'est que nous autres artistes, nous touchons toujours d'un extrême à un autre. Devinez à quoi je pensais quand vous m'avez interrompu. Eh bien, je me disais que je n'aurais jamais dû venir à Dymchurch. » J'allais répondre lorsque j'entendis Lucille qui m'appelait du jardin. Nugent se leva vivement. « N'avons-nous plus rien à nous communiquer ? » me dit-il. « Non, du moins pour aujourd'hui. » « Eh bien, au revoir, madame, » me dit Nugent en saisissant la poutrelle qui était au-dessus de la porte du kiosque où nous nous trouvions. Il franchit le mur du jardin et disparut dans un champ. Quant à moi, je répondis à Lucille et je courus à sa rencontre. Je la trouvai sur la pelouse, toute pâle et l'œil égaré, comme si on l'eût effrayée. Je lui demandai s'il était arrivé quelque chose de fâcheux au presbytère. « Non, répondit-elle, mais la prochaine fois qu'il m'arrivera de me plaindre de la fatigue, ne me donnez plus le conseil d'aller faire un somme. »« Pourquoi cela ? Vous dormiez, quand je vous ai quitté, d'un sommeil calme et paisible. »« Paisible ? Vous ne vous êtes jamais plus trompé. J'étais en proie à un affreux cauchemar. »« Vous sembliez cependant jouir d'un sommeil bien tranquille. » »« Alors j'ai fait ce rêve après votre départ. » Permettez-moi de partager votre lit ce soir. Je ne jouirai pas d'un moment de tranquillité en pensant que ce rêve hideux peut revenir me tourmenter. De quoi rêviez-vous ? Je rêvais que je me trouvais avec une robe de mariée devant l'autel d'une église qui m'était inconnue et qu'un ministre, dont la voix résonnait pour la première fois à mon oreille, me mariait. Tout aveugle que je suis, je le vois encore devant moi. Lucille agita sa main en l'air avec impatience. « Le marié ? Oui. Oscar ? Non, son frère Nugent. Je vous ai déjà avoué que j'étais parfois bien sotte. À ces paroles, j'éclatai de rire. « Pourquoi donc riez-vous ? S'écria Lucille avec colère. « Je vous dis que je l'ai vu avec sa figure hideuse. Il me passait, de sa main livide, l'anneau nuptial au doigt. » Ce qu'il y avait de plus singulier, c'est que, sans songer un instant que j'étais fiancée à Oscar, j'épousais Nugent de mon plein gré. Vous me direz que ce n'est qu'un rêve, je le sais bien, et cependant j'ai peur rien que de penser que j'ai pu être infidèle à Oscar, même en rêve. Allons le voir, je veux l'entendre me dire qu'il m'aime. Partons pour les sables, j'éprouve une telle frayeur que je n'ose y aller seule. » Je vous avouerai à ma grande honte que, poussée par mon indifférence, j'essayais de m'excuser pour ne pas l'accompagner. J'avais du reste mes raisons pour en agir ainsi. Je n'approuvais nullement la résolution de Nugent et je regardais d'un œil encore plus sévère la faiblesse et l'égoïsme d'Oscar qui acceptait le sacrifice de son frère. En un mot, le fiancé de Lucille m'était devenu presque méprisable et je crois que si je m'étais trouvé devant lui en ce moment, je lui aurais fait sentir ce que je pensais de lui. « Croyez-vous, ma chère, dis-je à Lucille, que dans ce cas, vous ayez besoin de moi pour vous accompagner ? Il faudra donc que je vous répète 100 fois ce que je viens de vous dire, » me répondit Lucille avec impatience. « Effrayée, bouleversée comme je le suis, je ne me sens pas la force de sortir seule. Vous n'avez donc aucune sympathie pour moi ? Supposez que ce soit vous qui ayez épousé Nugent au lieu d'Oscar. » « Eh bien, ma chère, dans ce cas, j'aurais tout simplement rêvé que j'épousais le plus agréable des deux frères. »« Le plus agréable ? Ah, vous voilà bien ! Toujours injuste pour Oscar !»« Si vous jouissiez de l'usage de vos yeux, vous apprécieriez comme moi, ma chère, les qualités de Nugent. »« J'aime mieux apprécier celles d'Oscar. »« Vous avez un parti pris, Lucille. »« Vous aussi. » C'est que vous l'avez rencontré le premier. Pas le moins du monde. Pardon, si c'eût été Nugent qui nous eût suivis au lieu d'Oscar et que de ses voix, toutes deux charmantes, l'une se fût fait entendre avant l'autre. Pas un mot de plus. Tralala, Le hasard a voulu que ce fût Oscar qui vous ait parlé le premier, voilà tout. Le hasard aurait pu faire aussi que ce fût Nugent. Madame Pratolungo, je ne suis pas habituée à m'entendre insulter de cette façon. Entendez-vous ? Sur cette réponse, faite d'un ton majestueux et les joues couvertes du plus bel incarnat que j'ai jamais vu, ma chère Lucille me tourna le dos et partit sans moi pour les sables. Je me mis à maudire mon intempérance de langage et mon mauvais caractère. Moi, son aîné, qui aurait dû lui donner l'exemple de la modération, comment avais-je pu me laisser entraîner à lui parler ainsi ? Je voudrais bien savoir s'il existe au monde une seule femme qui sache ce qu'elle fait. Notre mère Ève savait-elle pourquoi elle mangeait la pomme que Monsieur le Serpent lui offrait ? Qu'avais-je de mieux à faire sinon de courir après Lucille et d'acheter mon pardon au prix d'un baiser ? Mais soit que dans l'irritation du moment j'eusse mis trop de temps à me calmer, soit que Lucille eût marché d'un pas plus rapide qu'à l'ordinaire, elle était arrivée au sable avant que j'eusse pu l'atteindre. En ouvrant la porte, je l'entendis qui parlait à Oscar. Le moment n'était guère propice pour les déranger, surtout quand je pensais à la dispute que j'avais eue avec la jeune fille. Tandis que j'hésitais sur ce que je devais faire et que je jetais un regard distrait autour de moi, une lettre qui se trouvait sur la table du vestibule attira mon attention. Je vis qu'elle était adressée à Nugent et qu'elle portait le timbre de Liverpool. J'en tirai une conclusion inévitable, l'oculiste allemand venait d'arriver en Angleterre.